Cette semaine, dans le balado, on tombe en amour avec un bad boy. Oh oui, je pense que c'est la thématique commune de la plupart des films. Bienvenue à mon ciné balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff.
Salut. Ouais, il y a quelque chose de je sais pas si c'est, je connais pas tous mes termes toxiques, ne les pratiquant pas moi-même, là, mais de male gaze ou de gaslighting ou quelque chose comme ça, là, quand Nosferatu, sa manière de vouloir convaincre, là. Ouais.
Et cet amour, peut-on dire toxique de l'amour ouf?
Je pense pas qu'il est toxique. Il est, disons, à tout le moins fort. Ouais. Peut-être comparable à celui de Roméo et Juliette, en fait.
Oui, effectivement, ouais.
Qui n'est pas reconnu comme un amour poison. C'est plus un amour impossible ou difficile.
Oui. Bien que le personnage masculin est quand même un peu
Il s'est sombré dans la violence. Oui,
c'est ça. Il est romantique, mais plus écorché que Roméo. Bref, reviendra sur les sorties de la semaine. Donc, épisode spécial un peu allégé.
Oui, c'est rare qu'on en fait milieu de temps des fêtes comme ça, mais là, il y avait plusieurs films qu'on voulait discuter et peut-être que on n'a même pas réussi à tous les voir.
Écoute, pour ma part, j'ai manqué de temps parce que je voulais voir les deux grosses sorties. Mais on y reviendra parce que quand même, c'est une semaine très tranquille en termes d'actualité et bande-annonce, parce qu'évidemment, tout le monde à Los Angeles, oui, c'est ça, profite du temps des fêtes. Mais on a quand même annoncé en grande pompe, je pense que c'était lundi, sur les réseaux sociaux, le sujet du prochain film de Christopher Nolan.
Oui, c'est vrai. Ouais.
Qui est comme étonné, je pense, mais ça peut être très intéressant. Nolan qui nous prouve encore qui aime sortir des sentiers battus puis se renouveler.
Oui, puis je pense que juste du sujet, on le sait que ça va durer 3 heures fois. Là. Est-ce que c'est Ulysse ou Homère?
L'Odyssée d'Homère.
L'Odyssée d'Homère, ouais, OK. Fait qu'on ne sait pas du tout qui va jouer qui parmi tout son casting.
Selon le casting, je pense que ça devrait être Matt Damon qui est la tête d'affiche. Donc, il devrait jouer le héros
plus
principal.
Que Tom Holland?
Moi, je pense qu'il va jouer son fils Télémaque.
OK. Tu connais plus tes...
J'ai vu récemment, parce qu'on a vu cette fable-là portée à l'écran, mais dans un tout autre traitement, qui était The Return avec Ralph Fiennes puis Juliette Binoche.
Puis qu'on a parlé coup de vent, parce que c'est une sortie super limitée, technique. Là,
on a atterri.
Il doit être déjà sur les plateformes,
Mais qui est une version très réaliste de... J'oublie toujours les héros de l'Odyssée. Je vais aller chercher, là, juste parce que ça me tape ses nerfs. Bref, Christopher Nolan, donc, on va pouvoir voir ce résultat-là à l'été 2026.
Sur IMAX, assurément, qui va réserver encore 3 semaines d'écran comme Oppenheimer.
Donc, à l'été...
Et ceux qui avaient peut-être été déçus du traitement plus cérébral d'Oppenheimer, peut-être qu'on va voir quelque chose à la... 3 de Wolfgang Petersen. Je sais pas si on va être dans l'action pas mal.
J'imagine que oui. à suivre, donc Christopher Nolan qui nous surprend donc avec cet hommage au film biblique et de péplum des années 50. À suivre. C'est pas mal tout. Honnêtement, il n'y a pas d'autre chose que circuler de si intéressant. Donc, abordons directement les sorties de Noël qui a eu lieu il y a 2 jours. Puis en même temps, on va parler d'un film qui va prendre aussi l'affiche la semaine prochaine, qu'on a eu la chance de voir.
Tu veux commencer par quoi? Par Nosferatu?
Allons-y avec Nosferatu, qui a quand même surpris parce qu'il est ouvert, je pense, à 14 millions le jour de Noël. Pour un film d'horreur artistique, je pense que ça a déjoué un peu les pronostics de l'industrie parce qu'on lui donnait comme un 20 millions pour probablement pour le week-end en fil à venir, mais ça vient d'augmenter comme à 50 millions.
Oui, il fait courir les foules. 4e film, si je ne me trompe pas, de Robert Eggers, lui qui avait offert en ordre chronologique The Witch,
Lighthouse
et The Northman. Alors, il a raté l'occasion de faire The Nosferatu.
Ben, oui,
ça aurait été très laid, fait que c'est bien correct. Corrige-moi si je me trompe, mais Nosferatu, c'est comme Dracula.
Ouais,
c'est juste que c'est deux entités légales Ouais, ben, le nom est déposé.
En fait, Nosferatu est un plagiat de Dracula.
Okay.
Le film, à l'époque de 1922, était une version non autorisée par les ayants droit de Bram Stoker. Le roman date de 1897.
Okay. Le original, l'inventeur de ça, c'est Bram Stoker qui a inventé l'histoire de Dracula.
Ouais, effectivement. Okay. Alors, ben, ils ont été poursuivis. Ils ont dû détruire les copies. Certaines copies ont survécu, donc c'est pour ça que dans les années 60-70, c'est réapparu. On a quand même droit à des versions disponibles en DVD ou sur plateforme, là. Mais ouais, effectivement, c'est ça. Fait qu'on a repris essentiellement le roman de Bram Stoker pour ne changer les noms. Puis au lieu que ça se passe à Londres, ça se passe en Allemagne.
Exact, c'est ça.
Voilà. Alors, et on a transformé la créature. On lui a donné un aspect plus, justement, plus créature qu'humaine.
Oui, c'est ça. Puis elle a changé de nom. C'est plus le comte Dracula, c'est le comte Orlok.
Ouais.
Donc, comme tu viens de mentionner, on est en Allemagne en 1838 et on va suivre principalement les personnages de Thomas Hutter et de sa femme Hélène. Donc, j'ai Nicolas Hoult et Lily Rose Depp, fille de Johnny Depp et Vanessa Paradis. Ouais. Que moi, honnêtement, je vois juste Vanessa Paradis. Là.
Ouais, ouais, ouais.
Vraiment dans le film. C'est... Hormis la fameuse craque dedans. Voilà.
Ouais.
Thomas Hutter est un, donc, personnage de Hoult, est un vendeur de maisons, si on veut. Il travaille pour une agence de vente immobilière, voilà. Et ils ont reçu une offre du comte Orlok de fonds de Transylvanie qui veut s'acheter une maison, une nouvelle propriété en Allemagne. Alors, lui, il va être obligé de faire le voyage, très sinistre, très weird, à cheval, se rend chez le comte, a des visions très bizarres et... file vraiment pas bien, et ce qu'on comprend, c'est que le fameux comte Orlok, incarné derrière plein de prothèses par Bill Skarsgård, est un vampire, sans qu'on le nomme puisque personne ne sait c'est quoi, mais nous, en tant que spectateurs, on le sait.
Mm-hmm.
Et que lui, ben, son but, c'est donc de venir en Allemagne parce qu'il y a des visions de la fiancée, la femme de Thomas Hutter, donc Lily Rose Depp, il y a des visions d'elle, il veut qu'elle le marie lui, et il y a une espèce de... d'attirance, comme on voyait dans Bram Stoker, très sexuelle et par la succion du sang et le mordre dans le cou et toutes ces affaires-là. Fait que ça lui fait avoir des visions d'horreur, des choses comme ça. Et tout ça va mener à des espèces de cataclysmes sur tout l'entourage et une bonne partie de l'Allemagne. Et viennent jouer d'autres personnages, Aaron Taylor Johnson, qui est un ami justement de cette famille-là, donc qui soutient Ellen. Willem Dafoe, qui va être un espèce d'enquêteur occulte justement à qui on fait appel. Et aussi, j'ai oublié son nom, lui qui a la voix la plus grave du monde... Ralph Ineson aussi, qu'on avait vu dans le film de Possession qui était paru cet automne là. J'ai oublié attends, je te trouve le titre. L'origine, The First Omen.
Ah, okay.
C'est lui avec la grosse voix très sombre et tout. C'est un peu ça. Fait que c'est un film qui mélange sexualité et vampirisme, mais on n'est pas dans Blade, là, ou dans... Il n'y a pas plein de vampires, il y en a juste un. Puis il est très puissant, mais il est puissant cérébralement. Il arrive à un peu contrôler les esprits, à entrer désir de persuasion. Il modifie... Tu sais, il te rend tellement gaga que tu comprends que les autres... Le temps est comme weird, là. Tu le vois debout, tu clignes les yeux, il est rendu assis à côté de toi, ta chaise a comme déplacé, il y a vraiment une force occulte dans tout ça, finalement. Et la grande force du film, c'est le look. C'est la direction artistique, la mise en scène, les jeux de caméra de Eggers. On voit que c'est, comme on pourrait dire, plus des cinéastes techniciens là, qui capotent sur le jeu de l'image, sur l'image. Ce qu'on voit, le son aussi, la musique de... J'ai oublié son nom, mais très lugubre. J'ai essayé de l'écouter. Je l'ai mis chez nous, subtilement, là, entre deux chansons de Noël. Maman, qu'est-ce qu'on écoute? C'est donc bien sinistre, des petits morceaux de violon agressant de 1 minute 20. Je vais dire, ouais, non, c'est pas... Ça fait pas partie des trames sonores à écouter et capoter. On peut l'écouter d'une manière plus analytique, là, si on veut, parce qu'elle est vraiment au service du film, plus que... une belle mélodie romantique, mettons. C'est ça. Toi, t'as pas eu le temps de voir le film, t'as eu un contre-temps.
Oui, c'était prévu hier soir. Malheureusement, je n'ai pas pu le faire, mais écoute, comme tous les commentaires que je vois, c'est que esthétiquement, ça a l'air vraiment renversant, à couper le souffle, mais que l'histoire est peut-être trop connue, qui fait que ça renouvelle pas tant le genre. C'est un peu
c'est comme une histoire, c'est refaire un film classique, fait que c'est probablement la meilleure version qui a été faite. Là, vous pourrez le jeu des comparaisons avec Bram Stoker de
Coppola.
Coppola, oui, pas Scorsese. Coppola est vraiment différent dans son traitement. Il était très flash, quasiment giallo dans ses couleurs, puis très, beaucoup plus sexuel. Ici, Nosferatu est un petit peu plus soft là-dessus. Là. Toujours moins sexuel que Baby Girl, ça c'est sûr. Ouais. Fait que... Mais si vous aimez, ben justement, là, tous les films de Eggers, Northman en était un qui était très léché là, dans sa mise en scène, ses couleurs, les scènes de nuit. C'est même pas des nuits à l'américaine, c'est plus des nuits recréées en studio avec du map painting, des choses comme ça qui est très intéressant. Quand Thomas arrive au château et tout, là, tout est déroutant, la calèche qui arrive tout seul, il y a beaucoup de chiens, d'animaux qui aboient, qui crient. Quand même très effrayant. Le film commence avec une couple de jumpscares. Ben, un au début, il y en a à l'occasion de. Mais c'est comme des jumpscares raffinés, c'est-à-dire pas le côté cheap de vraiment un horror flick que tu le vois venir. Il y a vraiment une tension là. Tu sais, quand la caméra bouge, puis tu cherches dans. Il va-tu avoir de quoi dans le couloir, puis. Ouais. Vraiment du grand cinéma. Après, comme tu dis, ben, c'est une histoire que même si je pensais que je la connaissais pas, ben, finalement, je la connais. Puis tout, c'est un film de quand même 2h10. Là. C'est la mode ces temps-ci, là, si on veut bien prendre le temps de raconter l'histoire et tout. Mais les comédiens, tout le monde est vraiment bon. L'air de rien, Bill Skarsgård est en train de se faire toute
une filmographie
ben, de méchant. Deuxième fois qu'il joue un vampire, si on inclut Hemlock Grove, la série qui dans les débuts de Netflix, là, où il y avait des loups-garous puis des vampires, mais qui n'avaient rien à voir avec Twilight. Puis, il y a un sacré look, là. Il est vraiment pas le Dracula qu'on imagine. Là. Ouais. Là, il y a une espèce de moustache à la Hogan ou de vieux... sudiste séparatiste quasiment là.
Okay.
la moustache là, qui fait le tour de la bouche mais qui tombe dans les lèvres là. Puis un grand manteau de fourrure tout le temps. Il n'y a pas de moment où il se transforme en chauve-souris ou quelque chose comme ça, mais tu vois qu'il vole dans la nuit. On voit dans bande-annonce l'espèce d'image de sa main qui fait de l'ombre sur la ville, qui grossit, ou sur le visage de Lily Rose Depp. C'est vraiment cool, ces scènes-là. J'ai de la misère à... Ben, j'imagine que c'est un peu de l'effet numérique pour certains, là, mais comment on voit tout ça? Ça doit être un harmonieux mélange d'effets pratiques puis d'effets numériques.
Et justement, Lily Rose Depp, moi, une comédienne que j'aime beaucoup.
J'ai l'impression qu'elle va passer sous le radar un peu, parce que c'est un film d'horreur, puis souvent on regarde ça un peu de haut. Peut-être qu'elle aurait, à ce moment-là, moi je pense, une mention en rôle de soutien, peut-être, parce que c'est le genre de film où il y a tellement de personnages que c'est dur de voir qui est le principal. Tu sais. Pendant longtemps, c'est Nicholas Hoult, jusqu'à temps que là, on suive plus le compte Orlok, puis ça devient plus sur Lily Rose Depp, sur Ellen. Fait que tout le monde se partage la tâche, tu sais. Elle est vraiment bonne. Il y a des moments où elle est un peu dans son espèce de possession, puis c'est un jeu physique qu'elle fait réellement. Aussi, c'est une bonne performance audacieuse. Beaucoup de nudité de sa part là, qui est exigée. Ouais. Fait que je pense que ça prend une certaine dose de courage pour faire.
Je pense qu'elle est très à l'aise pour avoir fait la série The Idol.
Je connais moins sa filmographie.
Ouais, c'est ça qui était assez controversé. Je pense que c'était l'année dernière que ça avait sorti. Là. Mais fait que. Ouais, non, c'est ça. À ce niveau-là, elle semble pas avoir de problème.
Puis je l'ai jamais vue, mais je sais qu'elle joue dans des rôles. Elle a fait des rôles français aussi à l'occasion. Ouais, puis j'ai l'impression qu'elle est vraiment fluide dans les deux langues, parce qu'en anglais, elle a pas d'accent du tout.
Non, ben j'ai déjà entendu en entrevue. Puis effectivement, ben, elle partage son temps entre Los Angeles et quand même Paris. Donc elle va à l'occasion séjourner là-bas. Donc écoute, moi j'ai bien hâte de le voir quand même. Je suis curieux. Oui.
Je pense qu'on va en entendre parler pour les Oscars, à tout le moins, tous les prix techniques, assurément. Puis Skarsgård aussi, ça, il est super bon. Je pense que c'est sa vraie voix, mais c'est un nouvel accent. Il parle grave. Il me fait penser d'une certaine manière à. L'acteur qui travaillait avec Guillermo del Toro, puis qui fait toujours genre des personnages puis des créatures, mais
Doug Jones.
Ouais, c'est ça, que finalement on le voit jamais en lui-même ou presque. Ouais. Skarsgård est en train de faire ça, ou quand il est en lui-même, ben il est plus dans des films d'action de genre, des films noirs. On pense à Barbarian, des trucs comme ça. Là, c'était comme un contre-rôle, parce que tu dis, ce gars-là fait toujours des méchants, c'est sûr que c'est le méchant. Fait que vraiment une belle carrière. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aura pas beaucoup de reconnaissance de prix et de, disons, de ses pairs ou du milieu comme tel, mais qui va être vraiment adoré, tu sais, d'avoir joué Pennywise aussi, des rôles de transformation intense.
Ouais.
C'est sûr que les The Crow, c'était pas mal un moins bon film, mais il était quand même allé dans transformation physique, puis de se mettre en forme, puis des affaires de même. Fait que, ouais, un acteur dédié et peut-être sous-estimé.
Donc, si jamais vous voulez comparer à l'original, je pense qu'il est disponible. Je l'ai écouté justement il y a quelques semaines, mais je me rappelle plus, c'était sur Tubi ou Roku.
Ça dure plus comme 1h10.
Je crois 80 quelques minutes quand même. Là. Puis, cette version-là, c'est celle qui a été mise en musique par, je pense, c'est James Patterson, qui a fait beaucoup de musique des films Hammer des années 70-70. Donc, c'est cette version-là. Fait que tu as peut-être écouté à petite dose, là, c'est ce que j'ai fait. Puis ça, un film muet avec.
Ouais, j'ai eu de la misère, moi, c'est pas comme... cette rigueur-là. Écouter des films de 70, 80, 100 ans, là,
c'est un autre rythme. Fait que tu sais, à dose de 15-20 minutes, c'est quand même intéressant à voir. Mais.
Comme ceux qui disent, là, tu sais, si c'est trop ambitieux, lire des livres, lis, mettons, 5 pages par jour. Puis, tu sais, oui, c'est ça.
Mais visuellement, c'était quand même assez bien mis en scène pour l'époque. Oui, c'était faisait partie des premiers films de l'expressionnisme allemand. Il y a une version de 1979 aussi qui existe de Werner Herzog, qui, dès que le roman de Bram Stoker était tombé dans le domaine public en 1977, il a pu en faire une adaptation.
Qui s'appelle Nosferatu.
Ça s'appelle Nosferatu, fait que c'est comme un mélange des deux, fait que c'est vraiment au niveau esthétique
c'est une reprise. Maintenant, il n'y a plus de problème légal, sauf si tu veux l'appeler Dracula, c'est ça?
Oui, effectivement. Okay.
Dracula 2000, j'imagine, ils ont payé des droits de suite ou quelque chose.
Donc, avec Klaus Kinski qui jouait le rôle cette fois-ci de Dracula, mais comme je dis, avec l'esthétisme du film de Nosferatu. Petit fun fact quand même sur le film de Eger, ça fait quand même longtemps qu'il travaillait là-dessus. C'était supposé être son film qui suivait The Witch. Et c'était Anya Taylor-Joy qui devait incarner le rôle de Helen à ce moment-là. Puis c'était rendu sa muse. Puis finalement, ça a juste pris du temps. Et je pense que juste au niveau de la maturité en termes de cinéaste, il n'était pas encore rendu là.
Des fois, le financement.
Ouais, fait que c'est pour ça que ça a pris un petit peu plus de temps à financer, à se faire.
Puis tu vois, des fois... Je suis content pour lui parce que The Northman avait été un échec commercial, une déroute. Il avait coûté comme 80, peut-être même 100 millions, puis qui avait vraiment pas attiré, rejoint son public. Puis là, des fois, on craint de genre, bon, lui faisait des films à 10 millions, puis là, on lui donne un gros budget, ça marche pas du tout, est-ce qu'il va se refaire casser son budget? Puis Universal ont eu confiance, puis on dit, non, c'est beau, on continue. Ou bien, il était déjà engagé, puis il était trop tard. Puis là, ben d'après moi, ça va être un bon succès et probablement critique également, peut-être même, comme on dit, quelques Oscars, quelques statuettes en arrière de la cravate.
Ben, je pense qu'en termes de box-office, ça s'annonce déjà pour être son plus payant. Là.
Voilà, puis bien que plus niché qu'un Christopher Nolan, quand même, je pense qu'à partir de maintenant, beaucoup de gens va devenir un cinéaste très apprécié qu'on va attendre avec impatience son prochain projet. Tu sais.
Puis autre dernier fun fact, ben Willem Dafoe qu'on retrouve dans le film a déjà joué, lui, le Count Orlok en 2000 dans un film qui s'appelait Shadow of the Vampire qui racontait le tournage du film Nosferatu de 1922. Donc, il incarnait Max Schreck, le comédien qui joue Count Orlok. Tout à fait,
Puis est-ce qu'il pense qu'il est un vrai vampire pendant qu'il y a le tournage?
Non,
dans le sens qu'il y avait de singulier le tournage, on sait.
Je sais pas, j'ai pas approfondi mes connaissances.
Petit fun fact, t'as parlé de Willem Dafoe, je l'ai écrit sur Letterboxd, ceux qui me suivent. C'est le premier film, c'est vraiment pas le premier film de Willem Dafoe que je vois, mais c'est le premier film qui m'a fait réaliser... Ben voyons, il est donc bien petit, lui. Toutes les scènes, il est plus petit que les filles, il est plus petit que les enfants. Non, pas que les enfants, mais... Là, je suis sorti de quasiment du visionnement.
Tu es allé voir ça à grandeur?
Ben oui, il fait 5 pieds 7.
Ah, quand même.
Mais là, c'est bien correct. Là, je n'ai des
c'est juste
amis,
que j'ai avec des grands comédiens.
Finalement. Ben c'est ça, mais aussi, je me dis, crime, faudrait que je réécoute le premier Spider-Man puis des films comme ça. Est-ce que ça se peut qu'il y a plein de films où on triche un peu sa taille?
Ben oui. Il y avait peut-être des bas de plateforme parce que Tom Cruise et Sylvester Stallone, c'est connu.
C'est ça. Puis tu vois, lui, c'est juste. Ultimement, je m'en fous de sa taille, c'est bien correct. C'est juste, voyons, pourquoi c'est probablement le 25e film de Dafoe que je vois, puis je viens de réaliser, voyons, il est donc... Tu sais, j'imaginais pas qu'il faisait 6 pieds 2, mais tu te dis... 5-10, 5-11, il est dans la moyenne, je sais pas. Mais 5-7, c'est comme un peu plus petit que la moyenne des hommes. Mais j'ai dit, OK, coudonc.
Une des meilleures...
Là, je vous ai brisé ça, vous allez voir le film, puis vous allez juste focusser sur... Ouais, c'est vrai que quand ils sont 4 dans le plan, il est plus petit que tout le monde.
Je vais aller plus loin dans le brisage de rêve. Une des meilleures histoires de ça, à ce niveau-là, de recasting d'un comédien, parce qu'il était trop petit, c'est Michael J. Fox dans Back to the Future. Parce qu'à l'origine, c'était Eric Stoltz. Il jouait Marty McFly, qui est beaucoup plus grand que Michael J. Fox.
C'est ça, puis ils ont fait quelques jours de tournage, puis on disait ça.
Il a fait quelques semaines, il y avait trois semaines, je pense. Finalement, on l'avait changé pour Michael J. Fox. Et on a changé la comédienne qui jouait Jennifer, parce qu'elle était trop plus grande que Michael J. Fox.
Ah, elle, c'est trop poche.
Fait qu'elle a perdu son rôle, mais on est allé chercher une autre comédienne, finalement. Quand même. Allons-y.
Est-ce que tu veux qu'on parle quand même un petit peu de... Unknown,
Unknown. Qu'on peut. Ben oui,
parce
ça vaut la peine.
La semaine dernière, on dit qu'on en reparlerait. Là, on n'a pas le temps de voir, mais j'ai quand même fait un peu de recherche dessus. Ouais. Juste, là, je ne peux pas le nommer. Je ne sais pas combienième film de James Mangold, genre 10e, là, peut-être.
Alors, James Mangold, c'est lui qui nous a donné le plus récent Indiana Jones, mais quand même l'excellent Ford versus Ferrari.
Ouais.
Il y a quelques années, Logan aussi.
Logan,
quand
puis
même.
Le remake de 3h10 to Yuma aussi, je pense.
Oui, ouais, très bon, Western, oui.
C'est ça, le style western, il excelle. Bon, ici, c'est un biopic, un film biographique sur Robert Zimmerman, ou plus connu sous le nom de Bob Dylan. Alors, on est en 1961. Il arrive à l'âge de 19 ans à New York, directement du Minnesota, et il veut venir rencontrer le guitariste folk Woody Guthrie, qui est pas mal sur son lit de mort. Et de là va commencer sa carrière de guitariste et chanteur folk, parce qu'évidemment, il arrive avec un jacket en Suède, une guitare derrière le dos et ses poèmes en tête. Fait qu'on va voir la première moitié du film, c'est beaucoup l'établissement de sa carrière. Et toute l'autre moitié, c'est vraiment jusqu'aux années 65, donc pas mal son changement, sa cassure avec la guitare électrique, dont la toune « Like a Rolling Stone », d'où la parole « Complete Unknown », qui choquait les gens parce qu'il avait tout changé son
style. Ça avait causé une grosse commotion dans l'industrie musicale, effectivement, et parmi ses fans.
Donc... Exact. Puis ce qu'on comprend un peu, c'est le personnage de Bob Dylan, parce que quand t'as un nom d'artiste, t'es un peu un personnage aussi, finalement, malgré toi. Fait que lui aussi est un peu en mode « je m'en fous », et il veut choquer. Il veut provoquer et tout. Fait que c'est ce qui est bien du film, c'est ce qu'on note. Évidemment, je dis, je ne l'ai pas vu, mais j'ai lu plusieurs critiques. Alors, c'est un peu un melting pot de ça. C'est que là, le film ne s'étend pas jusqu'à We Are the World, puis aux années récentes, puis à tous ces trucs-là. On se concentre sur...
Des moments
définitifs
de sa
carrière. On met la table
en
plaçant sa carrière, puis cette partie-là, jusqu'aux années mi-60 à peu près. C'est sûr qu'on souffre un peu du classique des biopics, c'est-à-dire que toutes les chansons y arrivent un petit peu par magie, puis c'est parce que souvent, composer une chanson, composer une œuvre, c'est comme un processus qui est long, mais qui n'est pas nécessairement intéressant, là, à moins que tu aies des épiphanies en te faisant frapper par une voiture là, ou quelque chose comme ça, mais sinon, c'est juste...
Ou comme We Are The World.
Ben, je travaille mes paroles, puis je remets...
Un fusil sur la tempe, il devait composer genre en 3 semaines.
Ouais, pis... ça, c'est clair. Est-ce que je sais pas si t'avais vu le parenthèse, le documentaire Netflix a sorti ça. Quand même très divertissant, très intéressant, mais... Hey, c'est clair qu'il était toute sa drogue, là. Tout le monde. Tu sais, tu peux pas passer la nuit avec des guerres d'égo à faire ça s'il y a pas genre des plateaux de cocaïne pour tout le monde. En plus, il sortait d'un gala, puis toute quelle folie. Puis le passage sur Bob Dylan est très intéressant, parce que lui est comme, qu'est-ce que je fais ici? Je suis pas un chanteur de même, tu sais.
C'est Stevie Wonder qui va l'aider.
Oui, qui l'a déjeuné, qui l'a épaulé, qui sortait tous les autres, de faire travailler, qui comprenait pas du tout qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse, tu sais, quand faire des lignes solo, là.
Mais bref, on dit beaucoup de bien de Timothée Chalamet.
Oui, je pense qu'on est dans du Oscar bait pour sa performance.
D'autant plus qu'il chante pour vrai.
On peut réécouter. Je l'ai vu sur YouTube, mais dans le fond, en audio, ils ont repris des chansons de Bob Dylan, puis c'est lui qui chante. Okay. C'est du mieux qu'il peut imiter, puis évidemment, c'est pas meilleur que l'original, mais moi, j'aime bien ça, que tant qu'à jouer la performance, on y va à fond, puis c'est plus crédible que si c'est lui, puis là, soudainement, c'est la vraie voix de Bob, puis ça marche pas. C'est un peu le même principe quand on parle de James Mangold, quand il a fait du de-aging sur Indiana Jones, puis là, visuellement, c'est parfait, mais t'as la voix d'un monsieur de 87 ans. Ça paraît, tu sais. Bref. Ben, c'est ça qui est ça. Et lui aussi, il se démarque quand même très bien au box-office. Donc, ouais. Un parfait inconnu en version française ou A Complete Unknown version originale.
Je pense que ça confirme le statut de leading actor de Timothée Chalamet, qui a vraiment maintenant son public.
Il a comme changé de look voilà. aussi, on le voit en entrevue. Il a moins l'air gamin. Là. Il garde une petite moustache, une petite barbichette et tout, là, son passage à l'âge adulte. Ben, lui aussi, on en parlait, il fait partie des petits comédiens, quand même. J'ai réécouté Dune Part 2, ça j'ai eu le temps. C'est ça. Des fois, c'est aller au cinéma, c'est ça qui est plaisant, mais c'est ça qui est contraignant dans un horaire. À partir d'un film chez nous à n'importe quelle heure,
c'est plus
ça, ça va, c'est plus simple. Entre le 1er et le 3 janvier, dépendamment des cinémas, le succès en France, je sais pas, il est rendu à combien? Il a dû passer le 5 millions d'entrées.
Ouais, ou sinon sur le point 2, ouais.
L'amour ouf de Gilles Lellouche. C'est une adaptation d'un roman de Neville Thompson qui s'appelle Jackie Loves John Sir O.K.
Un roman irlandais quand même un peu obscur. Là. Tu sais, c'était pas un best-seller, mais qui a accroché dessus.
Ouais, c'est ça. Alors, il a kiffé dessus. Le film avait été présenté en compétition officielle au Festival de Cannes. On est dans les années 80, dans le nord de la France, et on va suivre deux adolescents, Clotaire et Jackie, qui vont tomber éperdument amoureux. Mais Clotaire, c'est un petit bum. Il vit d'une famille un peu plus pauvre où les claques partent un peu plus vite quand t'écoutes pas. Et alors que Jackie est fille unique, plus soutenue par, par ses parents, surtout par son père, parce que sa mère est décédée, il me semble.
Décédée ou ils sont juste séparés, je me rappelle.
Ouais, les deux, ça fait quelques temps qu'on l'a vu quand même, là. On la voit comme jamais. Je pense qu'elle est décédée. Ils vont tomber en amour, sauf que Clotaire va tomber un peu du côté de la racaille, faire des petites magouilles pour un caïd du nom de Benoît Poelvoorde, joué par Benoît Poelvoorde, qui est très bon, en fait, Poelvoorde. Il est bon dans tout, c'est ça. Il est comme un Michel Côté. Là, il peut être dans la comédie ou dans le drame, puis il est toujours intense.
Et son ton très unique aussi de débit.
Oui, avec voix un peu railleuse, mais pas trop, là.
Alors là-dedans, il fait un chef de pègre local qui aime le karaoké.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est les années 80, c'est un peu la nouveauté, je pense, les machines à karaoké et tout. Et éventuellement, il va y avoir un crime pendant un délit que, en fait, l'auteur n'a pas commis, mais c'est lui qui va porter le chapeau. Ouais. Et donc, va aller faire une dizaine d'années de prison. Fait que ça, c'est à peu près la moitié du film où c'est joué plutôt par... Mallory Vanek qui joue Jackie et Malik Frika qui joue Clotaire quand ils ont 15 et 17 ans. Et à la sortie de prison, là, ils sont rendus à l'âge mi-vingtaine, donc 25 et à peu près 28 ans, Adèle Exarchopoulos et François Civil. Fait que je le mentionne parce que des fois, on pense qu'ils sont dans 100% du film, ils sont plus dans la moitié ou le deux tiers peut-être. Sauf que là, mince, c'est un amour brisé. Elle pense qu'il a commis le crime, il l'a trahi, il n'était pas supposé faire ça, blablabla. Elle s'est remariée, mais là, lui, veut courir après, mais en même temps, il la laisse aller. Puisqu'il l'aime, il veut pas la forcer à quoi que ce soit. Et il va tranquillement se réintégrer dans la meilleure chose qu'il connaît, gérer des bars, puis péter des gueules. C'est pas il vend pas des armes, puis il fait peut-être des petites magouilles de drogue, je me souviens plus, là, mais c'est pas un caïd de l'héroïne non plus. Là. C'est quand même un gentil bum, si on veut. Là. Et surtout le moment où il possède son bar. Fait que c'est un peu cette histoire-là de cet amour impossible-là. Est-ce qu'ils vont réussir à venir ensemble parce que le timing était pas bon avec eux, mais ultimement, il l'a pas fait, le crime. Est-ce qu'on va arriver à le pardonner, etc.
Moi, c'est un film qui...
C'est une grande fresque, finalement.
Oui, puis qu'on mélange les genres, je pense que c'est ce que la force de Gilles Lellouche donne au film. Tu sais, on touche un peu au premier film de Guy Ritchie, Lock, Stock, Two Smoking Barrels, Snatch, là, avec cette espèce de racaille-là, mais qui sont pas super efficaces.
C'est ça. Un peu moins comique dans le ton que Lock, Stock. Là,
mais très dynamique au niveau de la mise en scène, de la réalisation des mouvements de caméra, l'utilisation de la musique aussi, quand même, qui est très présente des succès des années 80-90 dans le film.
Plus d'intégration des séquences comme de danse, là, sans être pas une comédie musicale, mais... un peu de fantaisie, là, de rêve par certains moments. Je trouve que souvent, la lumière est complètement trichée dans le film, mais est au service d'avoir une belle image puis d'avoir quelque chose qui flash puis qui est cool. Là. Comme tu dis, il y a des mouvements de caméra que je trouve audacieux, que je trouve bons, d'autres que je trouve quétaines, genre cégep, je fais mon premier film. Là. Il y en a un plan, la caméra est comme... quelqu'un déménage dans le film, puis là... la caméra est posée sur le carton, sur la boîte de déménagement. Puis là, la personne la transporte, fait que ça fait... Puis il fait comme 180 suivre. Avec la boîte en la mettant dans la boîte du pick-up. Puis là, ça filme autre chose. Puis là, ça montre un premier plan différent. Puis sort l'objet. Puis t'es comme, oh, c'est très audacieux ce plan-là. Mais c'est cool parce qu'il faut sortir justement des sentiers battus. Le film, tu sais, il dure 2h40. Il est quand même assez long. Mais moi, je trouve qu'il passe vite parce que, un peu, on mentionnait en entrée de jeu, Roméo et Juliette, tout quoi. Tu sais, il y a une... Ben, en fait, Roméo et Juliette, il y a beaucoup de sérénades, ce que dans le film est plus remplacé par, tu sais, de l'action, puis de l'avancement, puis des personnages qui posent des actions, puis qui avancent. Fait que ça passe super bien avec une petite présence d'un Raphaël Quenard aussi, qu'on adore toujours voir.
Ouais. Non, c'est bien écrit, bien joué. J'ai beaucoup apprécié le locatoire principal. Qui sont très crédibles, d'ailleurs, qui se ressemblent incroyablement. C'est très le fun. Benoît Poelvoord, comme tu as dit, toujours fascinant à voir. Alain Chabat aussi, qui joue le père de la fille, en père aimant, à l'écoute, très, très efficace aussi dans son petit rôle. Fait que moi, ça même, j'ai beaucoup apprécié. Comme je dis, j'ai aimé le mélange de genres. J'aime. Il y a vraiment, à la base, une histoire d'amour intéressante aussi entre ces deux personnages-là tout au long du film.
Oui, qui n'est pas trop quétaine. Leur histoire d'amour, elle n'est pas bien correcte, là, tu sais. Puis Vincent Lacoste aussi, qui joue lui qui courtise Jackie, qui finissent par sortir ensemble et tout, en espèce de petit preppy, là, tu sais, quand même...
Gérant très bon comédien d'une compagnie, là, ouais,
d'une compagnie de location d'auto, puis là, il monte d'un grade, puis il est très genre, hey, j'ai de l'argent, fait que... Ouais, très wannabe, et c'est vraiment une graine, là, comme on dit, mais il y a un bon format, c'est un grand parleur, puis etc. Là, puis, il aime le bien paraître, plus que... C'est plus une coquille vide, finalement.
Fait que tant mieux, ça en prend des succès comme ça, parce que honnêtement en écoutant, je m'expliquais mal pourquoi il semble si connecté que ça avec le public français. Mais j'en suis juste heureux, parce que c'est quand même un film de bonne qualité qui mérite d'être vu. Je pense qu'au cinéma, ça prend toute sa dimension. Puis des fois, il y a des heureux hasards comme ça, qu'on ne s'explique pas pourquoi un film à un tel moment donné vient rejoindre le public.
Et au scénario, il y a Audrey Diwan qui co-scénarise avec Gilles Lelouch puis un autre mec.
Oui, qui se forge une bonne feuille de route.
Elle est très bonne. Elle avait coécrit un film de Cédric Jimenez aussi, Bac Nord, mais L'amour et les forêts de Valérie Donzelli, qu'on a parlé un an ou deux. Et elle travaille sur Emmanuel, le remake.
D'ailleurs, la connexion Bac Nord, elle est très présente parce que Gilles Lelouch avait réalisé le film.
Ouais.
Et il y avait Adèle Exarchopoulos et François Civil.
Et Karim Leclou.
Et oui, donc... Il a repris son casting.
Ouais, fait qu'il reprend son équipe et tout. Bac Nord, je pense qu'ici, il était juste sorti sur plateforme, mais malheureusement, c'était un film très intéressant. C'était le film que Cédric Jimenez a fait avant novembre là, avec Jean Dujardin sur les attentats du Bataclan et tout.
Et si vous voulez en savoir plus sur le film, moi, j'ai eu l'occasion d'interviewer Mallory Wanek et Malik Frika, donc les jeunes ados du film. Vraiment sympathique. Ça a été vraiment une belle conversation. Très aiguisé pour leur âge, c'était le fun, belle conversation. Donc,
ils n'ont même pas 20 ans.
Moi, c'est sûr, je pense qu'ils ont comme 20-19.
Ils sont plus vieux que le rôle et ils ont tourné il y a comme un an et demi. Fait que...
Donc, j'imagine que ça va être en ligne sur mon ciné la semaine, peut-être la semaine prochaine ou l'autre suivante.
Ouais, vu les congés des fêtes.
C'est ça. Mais je sais qu'il était en montage, donc à suivre. Bref.
Ouais, y a-tu un scoop? Parce qu'il y a certaines scènes où ils jouent avec leurs alter ego plus vieux, là, parce qu'il y a des rappels par rapport à des éclipses solaires, puis des choses comme éclipses lunaires ou solaires. Mais sinon, ils étaient plus dans le cas. Ils côtoyaient la première partie, là, ils voyaient pas les autres.
Effectivement, dans le processus de casting, ils les ont pas rencontrés. Je pense que la première fois, c'était une lecture de table du scénario, quelque chose comme ça. Ce scoop que je peux peut-être donner, c'est en fait Frika, Malik Frika, qui est un danseur. Okay. Donc,
paraît dans certaines
scènes. Oui, c'est ça. Puis lui, ça a été un casting sauvage. Il a envoyé son audition comme ça. Ça a été un long processus, c'est-à-dire à peu près 6 mois. où il a fait différentes rondes d'audition avant, après ça, de rencontrer Mallory, faire quelques essais caméra ensemble avant d'avoir le rôle. Alors que Mallory avait été choisie, elle avait déjà joué dans quelques films, mais elle ressemblait à Adele.
Ouais, c'est ça.
Fait que c'est en partie pour ça qu'il avait choisi.
Mais ça les deux c'est sont ça, très surtout bons. Un des deux qui ressemble beaucoup. Puis le fait que le personnage de Clotaire, il a les cheveux rasés, puis tout, on dirait que ça permet un peu plus de liberté, parce que finalement, je trouve qu'ils se ressemblent beaucoup dans le film. Mais pardon, peut-être qu'en réel, pas du tout, mais une fois que les deux sont rasés, on dirait que c'est un look agressif.
Et dans le rôle aussi, là, évidemment. Là.
C'est ça, oui.
Ouais. Donc, allons maintenant complètement ailleurs, mais toujours pour les amateurs de cinéma étranger, Vermiglio, pardonnez mon italien.
Ouais, où est l'accent tonique? Vermiglio ou La mariée des montagnes. Mais ce que je trouve drôle, c'est que partout où je le vois, il l'appelle pas en français ou en sous-titré français La mariée des montagnes. Il l'appelle Vermiglio ou La mariée des montagnes. Genre, c'est comme. C'est sûr qu'il est pas clair. Vermiglio, c'est le nom du village en Italie. Et d'entrée de jeu, le film a remporté à la Mostra de Venise le Grand Prix du jury. Et c'est lui qui représente l'Italie dans la course à l'Oscar du meilleur film international. Et il est encore sur la courte liste en ce moment. Il reste quoi, 15 films, je pense, qui sont 12 ou 15 films. Qui sera en janvier, ça sera coupé à 5 films, les 5 finalistes.
Et là, je pense que ta nomination au Golden Globes aussi, c'est même
ah, ça se peut que je suis moins les GG. On va suivre une famille dans ce petit village montagnard qui est un peu, comment dire, je dirais la campagne, mais c'est pas la campagne parce que c'est la montagne, mais on n'est vraiment pas dans une métropole ici à Vermiglio. Donc, principalement trois sœurs et leur père est l'instituteur, le professeur du village, donc il est un petit peu plus érudit, un petit peu plus spéciaux que peut-être les autres qui sont juste des travailleurs. C'est le seul à avoir, mais pas une table tournante, mais vraiment un gramophone, puis quitte à acheter des vinyles au détriment de ce qu'ils auront à manger, tu sais. Des vinyles classiques, évidemment. Et ce qui va chambouler leur existence, c'est l'arrivée de deux soldats déserteurs, parce qu'on est dans la dernière année de la Seconde Guerre mondiale, donc en 1944-1945. Puis, la sœur aînée va s'éprendre d'un béguin, d'un kick pour un des déserteurs, qui est un Italien aussi, qui sont venus se cacher là en forêt. Et on va voir aussi, au rythme des saisons, là, ça débute, je pense, à l'hiver, puis on va voir pratiquement une année s'écouler, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver suivant.
Ils se font la cour.
Et voilà. Et c'est un homme très réservé, mais t'es aussi à l'époque où tu demandes la main. Il est très, fait qu'il va suivre des cours du soir donnés par le père. Et les trois sœurs, on va comprendre qu'il y a une espèce de compétition sans qu'elle le sache, de qui va avoir des études supérieures, qui on va pouvoir envoyer au couvent pour qu'elle ait une meilleure éducation. Les autres vont devenir des travailleuses parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Fait que c'est un peu l'histoire de ce village-là, mais à travers cette famille-là, c'est ces petites péripéties. Là, la guerre ne va pas arriver, ce n'est pas un film de guerre, c'est plus un film autour de la guerre, si on veut. Je le comparais vraiment comme Maria Chapdelaine. C'est ce que je t'avais dit avant que tu l'écoutes. Ouais. Finalement, tu l'as vu. C'est juste que, sauf que dans Maria Chapdelaine, c'est vraiment elle, les trois prétendants, puis là, celui qu'elle veut, il n'est pas là, puis lequel qu'elle a choisi, puis etc. Là, il n'y a pas plein de prétendants pour la fille, mais cette espèce de... Tu sais, on comprend que c'est un peu aussi l'histoire de l'Italie, là. Ouais. D'une partie de l'Italie, comment on vivait au début...
L'Italie rurale.
Ouais, c'est ça. 1940. C'est super beau. C'est rare que, comme je le dis souvent, les films qu'on dit « Ah, c'est juste beau, moi, si le film est inintéressant, ça s'arrête là pour moi », mais comme je l'ai trouvé captivant, tu sais, ils font le souper le dimanche soir, là, ben, ils sortent une table sur le gazon, là, il n'y a pas d'interbloc, il n'y a rien, tout un peu chambranlante, mais tu sais, décor de montagne, puis personne ne se dit « Oh, wow, c'est tellement beau », tu sais, c'est de même, comme quand tu vas dans le cours chez vous, tu sais, c'est tout le temps ça, tu sais. Fait que, ou le fleuve, tu sais, il est beau le fleuve, mais quand des étrangers arrivent, ils capotent, nous, on dit « Ah, ben, ça, on le voit tout le temps, là, tu sais. Fait que c'est ça que je trouvais vraiment intéressant, c'est finalement cette routine-là qui est pour nous complètement anormale. Il n'y a pas d'air fryer non plus dans ce film-là.
Non, c'est ça, ça parle vraiment de quotidienneté. Fait que je pense que le lien avec Maria Chapdelaine est très, très à propos, parce que ça aurait pu se passer au Québec à la limite. Là. Mm-hmm. On se reconnaît dans cette famille-là.
C'est ça,
parce
que nous, on n'est pas pu vivre en montagne, on vivait dans le bois à couper des arbres.
Mais ce côté-là très catholique de la chose, évidemment, c'était très présent. La pauvreté,
ils vont se cacher dans une grange pour se bécoter parce qu'ils savent qu'il faut qu'ils se marient s'ils veulent aller plus loin. Les trois sœurs qui dorment dans le même lit, les deux frères dans l'autre.
Oui, la grande marmaille, plusieurs enfants, tout ça. Donc, un film très intéressant, quand même très minimaliste dans sa réalisation. C'est pas un défaut, tout simplement, où la réalisatrice laisse la place vraiment au récit, au comédien.
Ouais, c'est quand même à l'autre spectre de l'amour ouf et même.
Fait que si vous appréciez ce genre-là, un film de grande qualité à ce niveau-là, là, pour Vermiglio.
Hey, voilà. Hey, j'ai oublié de noter qu'est-ce qui sortait le 10 janvier, mais écoute, souvent je tease en disant. Je me souviens qu'il y a Den of Thieves 2, Opération Pantera.
Est-ce qu'il va être dans ton top 2025?
Film de gars, sûrement. Ben, en parlant de top, on s'apprête justement à enregistrer notre top 10 de l'année 2024 et que si tout va bien, je vais mettre en ligne justement le 3 janvier puisqu'on vient de couvrir les deux sorties de ce vendredi-là. Et on retombera en épisode régulier le 10 janvier pour toutes ces sorties. Puis un peu à l'instar du fin novembre, début décembre, là, je me semble que janvier, le 10, 17, 24, il y a énormément de sorties, beaucoup de films internationaux qui sont en liste pour l'Oscar. Fait qu'on va avoir des avant-midi et des journées chargées en visionnement de films, mon cher Patrick.
Tout à fait. Je vais sortir le popcorn.
Voilà.
Ou c'est plutôt toi, parce que c'est toi qui as l'habitude d'en manger.
Puis là, c'est ça, j'ai oublié de traîner ma note. Fait que si je vais y aller de mémoire, ça va être complètement différent. Suivez-nous, écrivez-nous comme d'habitude, balado@commercialmonciné.ca. Là, je travaille pas tous les jours, fait que ça se peut que les réponses soient plus longues. Sinon, vous pouvez me suivre sur Letterboxd. Vous pouvez suivre Monciné, le magazine et donc du coup le balado sur Facebook et sur Instagram. Ça, c'est moi qui vais répondre au inbox si vous écrivez. Et procurez-vous le magazine Monciné qui est disponible gratuitement dans votre cinéma favori de la province ou bien en numérique. C'est qui la couverture dont je suis tout le temps mêlé?
Antoine Bertrand,
parce que Mademoiselle Bottine est toujours à l'affiche et cartonne parmi toute cette offrande de films familiaux. Écoutez, c'est ça, c'est un peu le dernier épisode régulier de l'année. Toute l'année depuis 3 ans maintenant. En fait, d'ailleurs, on avait commencé avec Maria Chapdelaine. On vous parle des sorties qui sont au cinéma. On le sait, comme je le dis à l'occasion, il y en a qui ne nous écoutent pas chaque semaine, nous écoutent à l'occasion, quand certains films les intéressent. Il y en a qui m'écrivent et qui n'écoutent pas le balado, mais ça me fait plaisir d'en discuter, c'est plus mes amis. C'est ça, nous, ça nous fait plaisir. Il n'y a aucun problème, vous n'alliez pas. On le sait qu'on voit plus de films que la normale. Mm-hmm. Vous allez au cinéma 3 fois par année. N'oubliez juste pas que c'est le fun. N'oubliez pas d'aller au cinéma une fois de temps en temps, même si peut-être ça coûte cher, que ce soit en famille, que ce soit solo, à deux. C'est vraiment cool ce moment-là où tu fermes ton sel, tu te déconnectes puis tu es juste 100% dans le film. Fait que si on vous aide à choisir des films qui vous plaisent, eh bien, c'est mission accomplie pour Patrick et Jeff.
Eh bien, c'est ça. Souvent, on allait à l'église pour entrer en communion. Ouais. Ben, je pense que le cinéma est un peu cette nouvelle façon de communier ensemble, c'est de ça. Partager cette expérience-là en mangeant le popcorn béni de Dieu.
Voilà. Ces temps-ci, c'est soit la communion se fait avec un film familial avant 13h ou Nosferatu ou Baby Girl à 22h le soir.
Donc, j'en profite également pour vous remercier de nous écouter, en fait. C'est toujours un plaisir de faire ce balado-là. Alors, on vous souhaite encore là un joyeux temps des fêtes qui reste, une bonne année 2025 aussi à venir, de belles découvertes, parce que c'est ça aussi le plaisir du cinéma, d'aller voir quelque chose à quoi on ne s'attendait pas et d'être émerveillé, d'être embarqué dans ces histoires-là. Sur ça, on vous souhaite bon cinéma, bon popcorn, puis si jamais vous quittez votre chalet du fin fond du monde pour débarquer en ville, puis que vous ressemblez à quelqu'un d'un peu étrange, peut-être changer votre style, maquillez-vous un peu, ça va peut-être vous permettre de mieux fitter avec les autres.
Je ne sais même pas exactement le référent.
Ben, quand tu reloques,
Ouais, mais si tu voyages juste la nuit, c'est correct aussi.
J'aime le voir.
Être weird la nuit, ça passe toujours bien.
Surtout dans certaines villes.